RFI, grand reportage, Laurence Adou.
La Centrafrique, troisième et dernier volet de notre série consacrée aux chantiers qui attendent les autorités de transition et la mission des Nations Unies, la MINUSCA, pour remettre le pays sur les rails. Hier et avant-hier, nous vous parlions de la restauration de la confiance, de la relance de l'économie. Aujourd'hui, grand reportage est consacré à la reconstruction de l'État centrafricain mis à terre après des années de crise. Centrafrique, remettre l'État sur pied. Grand reportage signé Laurent Corot. Laurent, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Boyrab, jadis quartier martyr de Bangui, puis fief des milices. Un après-midi tranquille. Les enfants s'avancent, fusil kalachnikov fait de branches et de ficelles sous le bras.
Ça vous tue.
Ils ouvrent le feu. Dans le jeu, ce sont les Séléka.
Moi, je suis un Séléka. Je tire sur les Centrafricains, les enfants qui n'ont pas d'armes. Je les tue et ce sont les Antibalaka qui viennent nous chasser.
Un autre groupe est à quelques mètres de là. Ce sont justement les Antibalaka. Les enfants rient et crient, le combat s'engage. Une petite fille s'avance, un couteau à la main, attrape un Séléka par le cou et l'égorge. Ils n'ont pas 10 ans, mais rejouent avec un réalisme glaçant une scène à laquelle le quartier a assisté. À la fin de l'histoire, ni la police, ni les gendarmes, ni la communauté internationale ne viennent. Personne n'est jugé. Les enfants n'ont pas estimé nécessaire de poursuivre le jeu jusque-là. Seul compte le face-à-face entre groupes armés. Les combats entre Antibalaka et Séléka hantent les enfants qui y ont assisté. Ils hantent également ceux qui y ont participé. Bangui, une maison, un foyer d'accueil pour enfants soldats démobilisés. Un adolescent visiblement tourmenté raconte comment il a rejoint les milices.
Mon père, ma mère et mon grand-père ont été assassinés à Bossangoa. C'est ce qui m'a poussé à rejoindre le groupe des Antibalaka qui descendait sur Bangui. À Bossangoa, on m'a présenté des principes qu'il fallait respecter. On m'a demandé d'avaler 2 lames de rasoir, de manger des racines d'arbres et aussi de ne pas manger trop d'animaux. J'ai accepté. Après, j'ai reçu mes vaccinations traditionnelles sur la colline, près de Bangui. Et c'est là que je suis devenu enfant soldat anti-Balaka. Pour moi, c'est un mauvais souvenir. Parce qu'on a braqué, on a volé, on a pillé et on a tué.
Les accompagnateurs souhaitent qu'ils n'aillent pas plus loin dans le récit des violences, mais ce jeune garçon se souvient bien du parcours initiatique qui l'a conduit là.
On nous a appris à utiliser les armes, comme les kalachnikovs, les lance-roquettes ou les grenades. Mais à un moment aussi, on nous a testé sur la façon dont il fallait dévier les balles quand on nous tirait dessus. Dans une colonne d'anti-Balaka, c'est la personne qui est devant qui a cette responsabilité-là, de dévier les balles. On nous apprend à le faire. Pour ça, il y a une petite clé qu'on nous a donnée et qu'on attache ici, en haut du bras. C'est grâce à elle qu'on peut dévier les balles. Pour s'entraîner à ça, on fait un rang. Il y a une personne qui se met en face et qui tire. Et la personne qui est en tête du rang essaie de dévier. Mais ça ne marche que si on respecte les principes, sinon on est piégé. Parfois aussi, il y a des anti-Balaka qui n'ont pas respecté la décision des chefs et ils ont reçu des balles.
Avec la crise centrafricaine, les groupes armés ont éclipsé l'État, un État qui s'était déjà recroquevillé sur la capitale et qui a perdu en quelques mois le peu d'autorité qui lui restait. Bria, dans l'est du pays. Le bâtiment de la préfecture est ouvert aux 4 vents. Le préfet par intérim, Edmond Sacco, partage les lieux avec les chauves-souris qui occupent le plafond d'un bureau voisin. Le secrétariat, lui, est envahi par les mauvaises herbes. Edmond Sacco appelle les gendarmes, les policiers, tous les autres fonctionnaires à revenir de Bangui.
Au niveau de la police, il n'y a que 2 éléments, le commissaire et son adjoint. Au niveau de la gendarmerie, on a compté à peu près 9 personnes. Vous savez, avec ces éléments-là, on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe. Nous souhaiterions à ce que les autres qui sont restés à Bangui puissent rejoindre leur poste pour permettre justement à l'État de bien fonctionner.
Ce redéploiement des fonctionnaires à l'intérieur du pays est l'un des chantiers importants des nouvelles autorités. Éloi Anguimaté est le ministre de la fonction publique.
Vous savez, la rébellion est partie d'un délai. Elle s'est étendue sur l'ensemble du pays, faisant fuir les autorités constituées. On a pensé que c'était un coup d'État. Un coup d'État, c'est qu'on garde les institutions en place. On s'appuie sur cette administration pour avancer. Il se trouve malheureusement que nos compatriotes qui sont arrivés à Bangui le 24 mars ne se sont pas appuyés sur cette administration. Elle a contribué plutôt à détruire cette administration. Les écoles ont été détruites, les mairies ont été détruites, les hôpitaux, s'ils n'ont pas été pillés, ils ont été détruits. C'est ce qui fait que dans les zones qu'ils ont occupées, il n'y a pas d'administration. Ce sont des généraux qui sont venus s'installer, qui ont pris plus ou moins en otage certaines régions et qui sont installés dedans. Nos provinces étaient littéralement dégarnies d'hommes en tenue, gendarmes, policiers et l'armée. Du coup, quand on a voulu déployer l'administration dans ces zones-là, face à l'administration parallèle qu'on a installée en 2013 dans ces régions-là, les fonctionnaires qui sont partis là-bas n'ont pas pu tenir, ils ont pris leurs bagages, ils sont revenus sur Bangui. Il faut aujourd'hui relever cette administration-là. D'abord en ramenant la sécurité, ensuite en construisant les bâtiments et en les dotant de mobilier pour permettre à ces fonctionnaires de reprendre leur activité normale. Tant qu'il n'y a pas la sécurité, on ne peut rien faire. Il faut absolument que la sécurité revienne dans le pays. À partir de ce moment, le fonctionnaire qui ne regagnera pas son poste, on va considérer qu'il a abandonné.
Parmi les fonctionnaires à faire revenir, policiers et gendarmes. Leur retour n'est pas seulement nécessaire à l'intérieur du pays, il doit également se faire dans les différents arrondissements de Bangui. Les forces internationales déployées en Centrafrique apportent leur appui à ce retour en accompagnant des patrouilles. Une carte déployée sur le capot du véhicule, le lieutenant Borès, qui commande un peloton au sein de l'IPU, l'Integrated Police Unit de la force européenne EUFOR, présente le parcours que va suivre la patrouille.
On va rejoindre le carrefour Sika 2. On remonte l'axe Benzui et ensuite on va s'enfoncer dans les pistes vers Boustapha jusqu'à la mosquée Goussima. À la mosquée, on débarque et on va effectuer une patrouille à pied de la mosquée Goussima à l'axe Koudoukou. Les problèmes qu'on rencontre actuellement dans ce quartier, c'est surtout de la délinquance ou de la petite criminalité. Des gens qui profitent du désordre relatif pour faire du trafic de stupéfiants ou des agressions. Des gens armés qui agressent les passants la nuit, quand il y a des coupures de courant ou dans les rues obscures.
Puis le convoi se met en marche.
On débarquera au niveau de la mosquée Goussima et on formera la patrouille à l'avant des véhicules.
La mosquée Goussima n'existe plus que de nom. Ses pierres ont été démontées et réutilisées ou vendues une à une. Dans le quartier, des maisons ont subi le même sort. Mais l'insécurité ici ne vise pas que les musulmans. Toute la population est raquettée par des hommes armés.
Il y a beaucoup
de braquages, surtout la nuit. Si vous circulez à seul, pour ce qui est téléphone, argent, tout et tout, ils prennent ça. Ils accusent les anti-balaka.
Comble de l'ironie, les anti-balaka se sont emparés du bureau de l'OCRB, l'Office de répression du banditisme, dans ce quartier. La patrouille passe devant le bâtiment saccagé et le capitaine Mori Koundé de la police centrafricaine espère bien que les choses vont changer rapidement.
Actuellement, ce sont les éléments incontrôlés de l'anti-balaka qui abritent ce bâtiment. Ils ont pris la peau de ce qu'on peut être arrivé. Ces anti-balaka, c'est eux qui font la loi ici. Avec beaucoup de forces qui viennent en appui à nos forces, c'est pour rétablir l'autorité de l'État, donc ça va changer.
La restauration de l'autorité de l'État suppose cependant que dans la police, la gendarmerie et l'armée, on sanctionne ceux qui d'une manière ou d'une autre font le jeu des groupes armés. Pour Soke Rinaldi, le président de l'AFDT, une coalition de partis politiques centrafricains, les autorités de transition n'ont pas encore eu le courage de faire ce tri.
Tous les centrafricains savent qu'il y a des sympathisants de Séléka dans les Namrie, il y a les sympathisants des anti-balaka dans les Namrie, la même chose dans la police. Ils peuvent avoir certaines tâches, mais pas de tâches sensibles. Nous savons que dans la police, dans la Namrie, il y a une partie saine. C'est pour ça que nous pensons que pour travailler à la remise en place d'un État, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser cette partie saine, ces policiers et ces gendarmes qui ne sont pas sous la coupe de quelque groupe armé que ce soit, les responsabilise.
Après ces longs mois de crise, restaurer l'autorité de l'État ne signifie pas seulement stopper les groupes armés. Il faut aussi faire face à une criminalité et un banditisme qui se sont développés dans un contexte d'impunité généralisée. La nature de la violence en Centrafrique a évolué, explique l'experte indépendante sur la crise centrafricaine, Marie-Thérèse Keïta Bokoum.
Il y a deux phénomènes qui ont pris de l'ampleur. C'est la montée du banditisme, la criminalité, c'est-à-dire des attaques, des propriétés, des attaques de personnes et même des enlèvements. C'est quelque chose qui est vraiment important à Bangui et à l'intérieur. Il y a un deuxième phénomène qui est important, c'est la chasse aux sorciers ou aux sorcières. Cette chasse concerne des attaques de population, des tortures, des enlèvements et même des enterrements vivants de personnes qui sont accusées de sorcellerie à l'intérieur du pays et à Bangui. Ces attaques et ce banditisme sont le fait des gens qui sont armés et viennent concurrencer déjà la violence qui se passait auparavant.
Mettre fin à l'impunité pour briser le cycle de violence. Depuis des années, le mot d'ordre est brandi, mais jamais suivi d'effet. Les juges reconnaissent que l'appareil judiciaire centrafricain n'est pas prêt à juger les violences des groupes armés et cette montée de la criminalité. Pour le président du syndicat des magistrats, Parfait Rodrigue Yangandia, les conditions d'une administration de la justice ne sont pas réunies pour l'instant.
Le juge centrafricain travaille la peur au ventre. Au niveau des palais de justice, par exemple, il y a quelques éléments de la MINUSCA qui sont là-bas pour garder les lieux. Ça, c'est déjà bien. Mais le juge ne travaille pas seulement qu'au palais de justice. Et donc, lorsque vous rendez une décision de justice, en rentrant chez vous à la maison, vous pouvez être agressé. Les conditions de sécurité sont déplorables et ne permettent pas aux juges centrafricains de travailler dans les conditions idoines.
Au parquet, un magistrat reconnaît que pendant très longtemps, les dossiers de flagrant délit liés au groupe armé ont soigneusement été laissés de côté, faute de protection. Qui demandera des comptes aux responsables des violences, qu'ils soient de la Séléka ou des Anti-Balaka? Face aux limites de la justice nationale, une cour pénale spéciale doit être établie par les autorités centrafricaines au titre du droit national, mais avec un soutien international. La CPI, la Cour pénale internationale, a elle aussi décidé d'ouvrir une enquête sur les violences commises depuis 2012 dans le pays. L'annonce en a été faite le 24 septembre dernier par la procureure Fatou Bensouda.
Les informations en ma possession fournissent une base raisonnable permettant de croire que la Séléka et les groupes anti-Balaka ont commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, notamment le meurtre, le viol, le déplacement forcé, la persécution, le pillage, les attaques contre les missions d'aide humanitaire et le fait de faire participer des enfants âgés de moins de 15 ans à des hostilités. La liste des atrocités commises est interminable. Je ne peux pas ignorer ces crimes présumés.
Faire revenir les forces de sécurité, reconstruire la chaîne pénale, refonder les institutions, doter le pays de dirigeants légitimes. Ces solutions indispensables suffiront-elles à restaurer l'autorité de l'État? Pour Alfred Le Grand Gaïa, conseiller politique des Anti-Balaka, il faut proposer une activité aux jeunes des milices si on veut vraiment les faire rentrer dans le rang.
Par rapport aux actes isolés de vandalisme, de vol par-ci, de braquage par-là, c'est parce que les anti-Balaka, beaucoup sont venus des provinces, des villages, et ils se retrouvent à Bangui. La solution, c'est qu'on trouve des moyens pour les prendre en charge. S'ils mangent, s'ils peuvent manger tous les jours, ce serait un grand pas. Parce qu'on les réunit, on leur parle, mais ça ne suffit pas pour les dissuader de leur comportement. Un jeune qui n'a pas d'opportunité, qui ne mange pas, vous savez, la tentation est grande.
Retour à Bria, dans les locaux dévastés de la préfecture, Edmond Sacco fait le même diagnostic pour les Séléka de la localité. Si on veut la levée des barrages, dit-il, il faut trouver une alternative pour ces jeunes qui vivent des taxes collectées sur la route.
Les gens n'ayant pas un moyen de subsistance sont obligés d'ériger ces barrières juste pour que la population leur verse quelque chose pouvant leur permettre d'avoir de quoi manger. Si une solution pourrait être proposée, c'est celle de prendre en charge les éléments de la Séléka. Ça permettrait justement à ce que ces gens puissent rester tranquilles et laisser la population vaquer à ses occupations.
Les effectifs de la coalition rebelle Séléka avaient fin 2012, début 2013, grossi au fur et à mesure de la progression des ex-rebelles dans le pays, drainant des centaines de centrafricains sans activité. Si l'économie ne les avait pas laissés sur le côté, peut-être ces jeunes n'auraient-ils pas voulu s'approprier le monopole de la violence. Centrafrique, remettre l'État sur pied, un grand reportage de Laurent Corot avec les moyens techniques de Bertrand Éclair, réalisation Marc Minatel.
Laurent Corot, bonjour.
Bonjour.
Dans ce troisième et dernier volet de votre série de reportages consacrés à la RCA, on voit bien toute la difficulté qu'il y a pour l'État centrafricain de se relever face à des groupes armés qui sont devenus omniprésents dans les esprits et qui ont pris le contrôle de certaines parties du territoire.
Voilà, alors la crise de l'État centrafricain n'a bien évidemment pas commencé avec l'émergence de la coalition rebelle Séléka à la fin de 2012. On a en fait assisté à une lente descente aux enfers liée à la malgouvernance, au désintérêt des gouvernants de Bangui pour ce qui se passait à l'intérieur du pays. Et en fait, quand la crise a éclaté, la Séléka a fait face à ce que les chercheurs d'ICG, International Crisis Group, ont qualifié d'État fantôme. Un État, en fait, privatisé pour le seul bénéfice des leaders centrafricains qui se sont succédés. Selon ICG, le processus de démocratisation qui s'était mis en place en 93 a dérivé en raison de l'instrumentalisation par les politiques de tensions intercommunautaires. Et puis, on a assisté à des mutineries, des rébellions liées au mécontentement des militaires, au mécontentement de certaines régions qui ont fini par enlever à l'État centrafricain ce qui est l'attribut essentiel d'un État, à savoir le monopole de la violence légitime. Alors, il y a à l'heure actuelle une culture de la violence, du recours à la lutte armée qui s'est installée dans le pays. On l'entend d'ailleurs au début de ce reportage avec ces enfants qui jouent à la guerre. C'est assez frappant. Comme si l'épreuve de force armée était le seul moyen de faire entendre sa voix dans ce pays, d'accéder au pouvoir. Et donc le premier travail concret pour le rétablissement de l'autorité de l'État, eh bien, c'est sans doute la promotion d'une culture de la compétition démocratique, le désarmement des cœurs, comme disent les autorités centrafricaines.
On comprend également, en écoutant votre reportage, que la relance du secteur judiciaire est l'un des volets importants de cette restauration de l'autorité de l'État.
Oui, je dirais même que c'est capital, puisque la crise, on l'a déjà dit à plusieurs reprises sur cette antenne, c'est une crise qui est en partie née du climat d'impunité qui s'est installé dans le pays. On peut dire que 2 ans après le début de la crise, non seulement cette impunité a provoqué une recrudescence de la petite délinquance, mais en plus, les groupes armés centrafricains se criminalisent de plus en plus, et donc la réponse à cette dérive va nécessiter un volet judiciaire important.
Alors un dernier mot, Laurent Corot. Après avoir fait ce bout de chemin avec vous pendant 3 jours, après avoir évoqué, on l'a dit, la nécessité de restaurer la confiance, de relancer l'économie, de remettre l'État sur pied, on a vraiment le sentiment que tous ces aspects sont étroitement liés.
Oui, c'est vraiment ça. On fait face à une crise qui est beaucoup plus complexe qu'une simple confrontation interreligieuse, puisque la pauvreté, la malgouvernance, l'impunité, le désir de vengeance se sont étroitement mêlés, imbriqués au fil des mois. Et donc, aider ce pays à se stabiliser est encore plus difficile aujourd'hui que cela pouvait l'être il y a 10 ans. Mais donc, plus que jamais, il est important de ne négliger aucun aspect, aucun visage de cette crise, si la communauté internationale veut réellement aider à la résoudre.
Voilà pour ces 3 grands reportages que l'on pourrait écouter à tout moment sur
www.rfi.fr.
Ce sera le bout de la fin, et vous le constatez, l'info se vit jour après jour sur RFI. Laurent Corot, merci beaucoup. Bonne journée.